Studio Tamani, voici nos informations en français.
Quatre morts, plus de 112 blessés, c'est le bilan des accidents de la circulation. Accidents survenus dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2014. Le dossier complet dans ce journal. Un militaire mort, deux autres en état de choc, c'est le bilan d'une collision entre deux pinas sur le fleuve de Niger. C'était au large de Rarous, dans la région de Tombouctou. 50 milliards de francs CFA à récupérer pour 20 dossiers sur la centaine enregistrés au pôle économique. La lutte contre la corruption semble être accélérée dans le collimateur de la justice de haut responsable de la transition. Mohamedou Touré pour le développement de ces titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Un militaire noyé et deux autres en état de choc, c'est le bilan d'une collision sur le fleuve Niger entre une pinasse réquisitionnée par la gendarmerie de Gourma-Rarous dans la région de Tombouctou et une barque commerciale. Selon de sources locales, les autorités fluviales étaient à la poursuite d'une pinasse qui a refusé de s'arrêter au poste de contrôle. Les deux pinasses se sont heurtées et c'est celle qu'occupaient les gendarmes qui a chaviré. Albert Touré est habitant de Gourma-Rarous, il est au micro de Arkia Touré.
Aux environs de 18h. Il y a une pinasse commerciale en direction de Gao pour Mofti. La pinasse a refusé de s'arrêter au niveau du poste de contrôle. La gendarmerie nationale se trouve au bord du fleuve Niger Garou. C'est là que un gendarme et deux militaires ont pris une autre pinasse pour poursuivre la pinasse du commerçant qui a refusé de s'arrêter. La pinasse où se trouve à voir le gendarme et puis les deux militaires en chemin.
Est-ce qu'il y a eu des victimes?
Il y a eu un seul victime, c'est un militaire qui a perdu la vie là-bas. Hier matin, aux environs de 9h, que le corps a été retrouvé. Quand même, les deux autres sont un peu surmenés. Jusqu'à présent, ils sont au niveau du CCRM de Rarous.
Et jusque-là, vous n'avez pas d'informations sur la dite pinasse?
Jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas des informations concernant la pinasse. Mais qu'on a su que l'autre pinasse a chaviré, le pinassier a continué.
Selon la même source, la pinasse en fuite vient d'être arrêtée à Diré, toujours dans la région de Tombouctou. 112 admissions, dont 4 morts, c'est le triste bilan des accidents de la circulation au cours du réveillon dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2014. Au service des urgences Gabriel Touré, des mesures avaient été prises pour assurer la prise en charge des accidentés de la circulation. Les médecins étaient en alerte maximale via les téléphones portables pour intervenir à tout moment. Sira Batili a rencontré pour nous le professeur Django Djibo, chef anesthésie et réanimation du CHU Gabriel Touré.
Comme d'habitude, le service d'accueil des urgences, que d'aucuns appellent même service des traumatisés ou des accidentés, reçoit en moyenne 70 patients par jour. Et nous n'avons pas dérogé à cela. Et cette année, nous avons eu 72 admissions dans la nuit du 31 au 1er janvier 2014.
Parmi ces accidentés, est-ce qu'il y avait des cas graves?
Il y a des cas graves dans la mesure où, dans la même période, nous avons arrêté quand même 4 décès. Nous avons encore un cas qui est encore dans le service, qui n'est pas sorti, qui a sa vie, qui est quand même en danger.
Comment est-ce que vous avez fait par rapport à la prise en charge?
La prise en charge, là aussi, elle ne déroge pas au principe de fonctionnement habituel du service. Le service est sectarisé, ce qui nous amène tout de suite à l'admission de dire que tel patient, il est grave. Il faut rapidement assurer sa prise en charge. Ou tel autre patient est un patient qui est moins grave. Donc, on peut tout à fait le mettre dans notre secteur qu'on appelle les box pour pouvoir continuer à le documenter. Ceux qui travaillent aux urgences, dans cette période-là, savent qu'ils sont en veilleuse. Nous avons les numéros de téléphone et nous sommes à mesure de les mobiliser tous dès lors que le besoin se fait sentir.
Interdiction des feux d'artifice durant la fête. Si la mesure a été adoptée depuis bientôt 2 ans par mesure de sécurité, cette mesure n'est pas respectée. La police, en charge du respect de la consigne, a déploré le manque de collaboration de la population. Elle a donc procédé à des interpellations. Écoutons le commissaire divisionnaire Moussoudou Harbi. Il tire ici un bilan de la gestion du dossier au commissariat du 3e arrondissement de Bamako. Ses propos sont recueillis par Aliou Sidibé.
L'interdiction n'a pas été respectée sur toute l'étendue du site de Bamako. On l'a constaté puisque nous avons procédé à des interpellations à tout azimut. Ça nous a permis, nous, au niveau du 3e arrondissement, d'interpeller 7 personnes, dont des mineurs, qui ont été mis à la disposition de la brigade chargée des mœurs et de l'enfance. Tous ceux qui ont été interpellés et conduits dans les unités de sécurité publique ont été verbalisés. Ils ont été verbalisés puisque c'est des infractions pour lesquelles on verbalise. Ils ont été verbalisés, en tout cas à notre niveau, à 18 000 francs chacun. Quand tu es verbalisé, la suite, c'est la mise en liberté.
3 requêtes ont été lancées sur la ville de Kidal la nuit du 31 au 1er janvier 2014. Le premier engin explosif est tombé vers 3h du matin à 500 mètres en direction du camp de cantonnement du groupe rebelle HCUA au Conseil pour l'unité de l'Azawad. Les deux autres obus sont tombés en direction du camp des forces onusiennes et françaises vers 5h du matin. Selon certains habitants de la ville, les patrouilles militaires avaient été renforcées aux alentours de la ville. À Koulikoro, l'heure est toujours à la fête. Les services techniques de la région ont présenté aujourd'hui leurs vœux de nouvel an au gouverneur de la région, Alaï Tessougué. Tous ont formulé des vœux de succès, de progrès, de bonne croissance pour la région de Koulikoro. La cérémonie de présentation de vœux s'est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat. Le gouverneur avait à ses côtés les membres de son cabinet et le préfet du cercle de Koulikoro. Le deuxième dossier retraite 2013 de la rédaction est consacré au général Sanogo, ex-chef du comité de réforme militaire et auteur du coup d'état du 22 mars 2012. Le retour à l'ordre constitutionnel normal a permis le casernement des militaires membres de l'ex-junte et la tenue de procès dans lesquels ils sont accusés. Rappel des faits avec Aliou Sidibé.
L'année 2013, c'est aussi le démantèlement de l'ex-junte à travers la dissolution du comité de réforme des forces armées et de sécurité dirigé par l'ex-capitaine putschiste Amadou Aya Sanogo. Le Mali a un nouveau président et cette dissolution sera l'une des premières tâches du nouveau gouvernement. Pour certains, c'est la fin de l'époque Sanogo, promis quelques semaines plus tôt au grade de général d'armée par le président intérimaire Diomouna Traoré. Le démantèlement de l'ex-junte marque en même temps les ennuis de l'ex-capitaine Sanogo, contre lequel une mutinerie éclate à la garnison de Kati. Nous sommes le 30 septembre. Les hommes de rang réclament à leur ex-patron des grades. Mais leur aventure est vite stoppée par le déclenchement de l'opération Sania. Les choses se précipitent moins de 2 mois après. Le 27 novembre, le juge d'instruction Yaya Karambé ordonne la comparution de force du général Sanogo. Il doit répondre des accusations dans l'affaire du contre-coup d'état du 30 avril 2012. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe à Bamako comme une traînée de poudre. Le général Sanogo a été placé sous mandat de dépôt par le juge Karambé. La décision est diversement appréciée par les populations en attendant le jugement. Sanogo est accusé de complicité d'enlèvement, mais il y a eu découverte des charniers de Diagon et Kati et celui d'Amdelaï. Les partis civils ont demandé à requalifier les faits à lui reprochés.
Dans le cadre de la lutte contre la corruption, une centaine de dossiers sont déjà devant le juge. Les auditions sont en cours et selon des sources proches du dossier, certains au cadre de la transition pourraient être concernés par ces auditions. On y retrouve des anciens ministres des Finances, des directeurs généraux, des directeurs financiers ou encore des banquiers. Les interrogatoires durent parfois plus de 13 heures par jour. On avance le chiffre de près de 50 milliards de francs CFA détournés pour moins de 20 dossiers. Le scandale tournerait autour de l'attribution de la troisième licence de téléphonie mobile. En clair, on soupçonne le versement d'énormes pots de vin concernant le dossier. Et ce jeudi, des hommes d'affaires maliens qui doivent être entendus ont été priés de ne pas sortir du territoire national. Proclamation des résultats définitifs des élections législatives. La Cour constitutionnelle les a rendus publics le mardi dernier. On constate cependant des changements majeurs dans 3 localités, à savoir Nara, Nyono et Gao. Salimata Daou.
La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des législatives du 24 novembre et 15 décembre. Après consultation des requêtes déposées à leur niveau, les juges ont trouvé pertinentes celles provenant des circonscriptions de Nara, Nyono et Gao. En deuxième région à Nara, c'est le parti du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, RPM, qui sort vainqueur, représenté par Niamey Keïta, Baba Hamakan et Moussa Badiaga. Dans cette localité, les candidats RPM étaient face à la liste ADEMA PACJ, ADP Maliba. À Nyono, en 4e région, les requêtes formulées par le groupement de partis RPM-UMRDA face au Djigui Sadi, Dessori Ibrahim Kouriba, Belkoba et Araba Doumbia ont été retenues par la Cour constitutionnelle. Cette liste passe donc devant la liste RPDM ADP Maliba. À Kao, la liste RPM devant l'ADEMA PACJ ASMA. La Cour ayant retenu les requêtes du RPM. Ce sont donc Ibrahim Amadou, Agissa Seydou Touré et Alousna Malik Touré qui deviennent les députés de Gao. Dans certaines localités des circonscriptions électorales où il y a eu dysfonctionnement, la Cour a simplement procédé à l'annulation des votes.
Dans quelques instants, l'émission Le Grand Dialogue avec Modibo Mariko, qui est d'ailleurs avec moi dans ce studio. Bonsoir, quelles sont les questions de ce soir au Grand Dialogue du studio Tamani?
Mamadou, bonsoir. La question, c'est l'aide publique à la presse, quelle clé de répartition? À travers ce thème, nous allons parler avec nos invités des critères pour bénéficier de l'aide publique, de l'incompréhension autour de sa distribution et de la forme qu'elle doit prendre si jamais changement doit-on y apporter. Les grands dialogues, c'est dans quelques instants en direct de la maison de la presse, Mamadou.
Merci, c'est sur ce que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.